Bonsoir. Les Congolais de la RDC n'auront plus besoin d'un visa pour voyager de Kinshasa à Brazzaville et vice-versa. C'est ce qui ressort de la 5e session de la Commission spéciale défense et sécurité des deux pays qui s'est clôturée vendredi dernier à Kinshasa. Quelle analyse faire de cette mesure et que faut-il pour consolider les relations entre les deux pays? Nous en parlons avec Franck Diongo, il est député national de l'opposition et président du parti politique Mouvement Lundiste et Progressiste MLP en sigle. Bonsoir honorable Franck Diongo.
Bonsoir.
Joseph Kongolo, il est analyste politique. Bonsoir monsieur Joseph Kongolo.
Bonsoir.
Et lui, il va nous rejoindre, c'est André Alain Atundu-Lyongo. Il est ancien ambassadeur au Rwanda et ancien diplomate à Paris. Il est aussi président du parti politique Convention pour la démocratie et la République, parti de la majorité présidentielle. Bienvenue à tous dans cette émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Vers l'amélioration des relations entre la RDC et le Congo-Brazzaville, désormais pas de visa pour les voyageurs transfrontaliers entre les deux pays. C'est ce qui ressort de la 5e session de la Commission spéciale défense et sécurité entre la RDC et la République du Congo qui s'est clôturée vendredi dernier à Kinshasa. Il était question, dans ces assises des deux jours, d'examiner les modalités de la mise en œuvre de la Convention sur la circulation et l'établissement des personnes et des biens. Innocent Olenga pour les détails.
C'est en tout cas la grande décision de ces assises qui exonère les voyageurs transfrontaliers de toute formalité de visa. Et les périmètres concernés couvrent 50 km de part et d'autre de la frontière, contrairement à la période d'avant l'expulsion des RD congolais de Brazzaville qui s'étalait sur 15 km. Mais seulement, cette exonération n'est valable que pour un séjour de 3 jours. Au-delà de ces délais, les voyageurs transfrontaliers sont tenus d'avoir un visa. Quant aux voyageurs transnationaux, les services des migrations de deux pays ont été chargées d'harmoniser, entre autres les questions relatives au coût du visa, au délai de traitement des dossiers et à la durée de validité des visas. Évariste Boshab, vice-premier ministre et ministre RD Congolais de l'Intérieur et Sécurité, s'en réjouit.
Nous avons travaillé dans un climat de fraternité, dans un climat d'amitié et nous sommes arrivés au résultat attendu par le peuple frère des dérives. Nous sommes revenus comme par le passé, nous avons fait un pas et nous ferons d'autres pas.
Un rapport avec la commission mixte d'enquête sur les allégations des violations des droits de l'homme ayant émaillé les opérations d'expulsion du Congo-Brazzaville des ressortissants de la RDC, les deux parties ont convenu de la mise sur pied de la dite commission d'enquête.
Merci Innocent Olenga. Franck Diongo, je rappelle que vous êtes député national de l'opposition et président du parti politique Mouvement Lumumbiste et Progressiste MLP en sigle. Suspension des visas pour les voyageurs transfrontaliers entre les deux pays, donc la RDC et la République du Congo. Votre réaction par rapport à cette mesure?
Ma réaction est une réaction de colère, une réaction d'un État qui humilie sa population. Au niveau de l'analyse globale, cette décision annoncée est une supercherie, une anarque, une sorte de stratagème. Notez que l'enjeu principal sur le président Sassou, les dictateurs, a besoin que les Congolais de Kinshasa aillent voter le référendum.
Pourquoi vous l'appelez dictateur?
Les deux présidents ont déclaré la guerre à leur peuple en voulant violer la constitution pour rester au pouvoir.
Ils ne sont pas là pour répondre, monsieur Franck Diongo. Est-ce qu'on peut analyser la mesure qui a été prise?
Alors, du côté du Congo-Kinshasa, je disais que c'est l'humiliation d'un peuple par ses dirigeants. Notez, au moment où les plaies ne sont pas encore cicatrisées, on a violé nos femmes, on a volé, on a exproprié les Congolais. Et que des Congolais dorment encore dehors, du côté de la commune de Kinshasa. Et l'État congolais les a ignorés. Et voilà, combien de commissions ils ont constituées, commissions d'enquête, rien de cela. C'est à ce moment-là, pour d'intérêts politiques, que l'État contre le peuple, que j'accuse auprès de l'opinion publique et l'État congolais, va prendre une décision pour l'intérêt personnel des dictateurs.
Parce qu'en fait... Ce n'est pas pour l'intérêt des deux peuples, des deux
pays. Ça n'a rien à voir avec l'intérêt des deux peuples. Je vais vous démontrer, monsieur.
Parce que ça facilite, n'est-ce pas, la circulation des peuples,
des populations et des biens. Laissez-moi vous dire qu'initialement, lorsqu'on avait lancé l'opération Bataille à Bakolo, où on a violé nos femmes congolaises, on les a filmées et ils ont mis ça à l'internet. La mesure des 15 kilomètres était en vigueur. Ça veut dire, le laissez-passer, les Congolais qui habitaient des deux côtés des frontières, la mesure des 15 kilomètres est encore en vigueur.
Et maintenant là, on parle des 50 kilomètres, une avancée, n'est-ce pas?
Les 50 kilomètres, c'est une sorte d'avancée pour permettre le grand nombre d'aller voter à Brazza, d'aller voter le référendum. Parce que chaque fois qu'il y a élection...
Permettre à qui d'aller voter?
Monsieur, permettre les Congolais de Kinshasa... Parce qu'ils ont toujours voté le président Sassou.
C'est vrai, vous avez des éléments qui attestent ça.
Moi, je suis de Kinshasa. Notez qu'à partir de l'Équateur, province de l'Équateur, Congo, comment on appelle ça, les Bas-Congo et Kinshasa, chaque fois qu'il y a un jeu électoral, ils partent voter le président Sassou.
Et donc, vous voulez dire que c'est des mesures qui ont été prises pour des raisons électorales.
Pour la calcul politique, ça n'a rien à voir avec l'apaisement de la misère de deux peuples.
Pourtant, c'est des mesures qui étaient réclamées par tout le monde.
Monsieur, laissez-moi vous dire. Pourquoi je l'ai appelé super chéri? Le prétexte de mise, c'est donner la part. Comme si on faisait quelque chose pour l'intérêt de la population. L'arrière-pensée, c'est le calcul politique, l'intérêt électoraliste, monsieur. En termes de...
Alors, si le président Sassou savait que les Congolais votaient, les Congolais de la RDC votaient pour lui, pourquoi... L'année dernière, en 2014, il avait pris la décision de les expulser.
C'est ça l'humiliation que j'ai dit, que les grands Congo est humilié par des dirigeants. En fait, le président Kabila et son gouvernement viennent d'humilier les Congo. Parce qu'en fait, les traitements inhumains, les viols, les vols, les manques de respect de tous les droits que les Congolais de Kinshasa ont subi. On ne pouvait pas aboutir à un tel résultat. Sa même présentation d'excuses publiques du gouvernement de Congo-Brazzaville. Sa même réparation des fautes commises. Je vous ai dit que les plaies ne sont pas cicatrisées, monsieur. Ça saigne encore. Et voilà. On a ignoré de tout ça. Même la publicité autour de cette histoire.
Honorable Franck Diongo, parce que les plaies, comme vous le dites, ne sont pas encore cicatrisées.
Cicatrisées, monsieur. Ça saigne encore.
Qu'est-ce fallait-il faire? Fallait-il laisser, n'est-ce pas, les statu quo, ou il fallait essayer de voir comment créer les dégels dans les relations entre les deux pays?
Moi, je suis clair dans mes positions. Comme patriote, je défendrai l'honneur et la dignité du grand Congolais géant de l'Afrique. Un petit État minuscule, avec 4,5 millions d'habitants, ça ne fait même pas la moitié de la population de Kinshasa, va manipuler le grand Congo.
Est-ce qu'on peut, on peut analyser les mesures qui ont été prises au lieu de
les attaquer
aux États,
prises,
de s'attaquer aux personnalités?
Les mesures qui ont été prises, de donner 3 jours, tout simplement, quand je prends les deux groupements sous-régionaux, CEMAC et CDAO. Saviez-vous, monsieur, qu'elle a fait pour que ça soit à l'intérêt de la population congolaise, on aurait supprimé totalement le visa. Vous savez qu'en CDAO, les pays membres de CDAO, un citoyen d'un pays de CDAO ne circule que tout, il a une pièce d'identité, il accède en tout le pays. Les Congo Brazzaville et les Congo Kinshasa sont membres de CEMAC. Donc la fête, la joie serait qu'on a supprimé définitivement les visas.
Cela veut dire que
la force, les 3 jours,
cela veut dire que les mesures qui ont été prises,
c'est inutile, c'est politique.
Donc ça ne va pas permettre la circulation des biens et des populations.
Non, la population va partir avec le laissez-passer, mais ça n'aide pas sur rien du tout. Parce
Merci.
Que si vous faites plus de 3 jours, il faut les visas.
Merci.
C'est inutile.
Merci André Alain Atunduliongo. Je rappelle que vous êtes ancien ambassadeur au Rwanda et ancien diplomate à Paris. Vous êtes président du parti politique Convention pour la démocratie et la République, parti de la majorité présidentielle. 5e session de la commission spéciale défense et sécurité entre la RDC et la République du Congo. Et il a été décidé à l'issue de ces assises que l'on puisse exonérer les voyageurs transfrontaliers de toute formalité de visa. Comment vous analysez ces mesures qui sont qualifiées par le député Franck Diongo comme étant une supercherie?
Merci, excusez-moi pour le retard. Je trouve que c'est une mesure de normalisation des rapports entre les deux peuples. Ces rapports qui vont au-delà des intérêts conjoncturels, électoralistes, populistes et propagandistes. J'ai entendu des éclats de l'honorable Franck Diongo, mais je ne sais pas s'il sait que beaucoup de Congolais de chez nous ici sont déjà rentrés et que pour les sécuriser, il fallait normaliser la situation. Heureusement peut-être qu'il n'est pas diplomate ou politicien en fonction. C'est pourquoi je le lui pardonne. Mais dans des circonstances aussi difficiles, il s'agit des frères de part et d'autre. Il s'agit des populations interpénétrées. Eh bien, il est tout à fait normal que nous puissions dépasser les frustrations personnelles, penser à l'intérêt bien compris et de l'État congolais, des deux États congolais et des deux populations congolaises. Évidemment, nous n'avons pas cautionné ce qui est arrivé. Nous avons regretté. Mais dans la vie, il faut savoir tout positiver. Je pense qu'aujourd'hui, c'est un peu le résultat, ce n'est pas un peu, c'est le résultat de la politique, de la diplomatie stratégique de notre État. Ça ne sert à rien. Parce qu'au moment où les politiciens vocifèrent autour des stations, les populations qui sont impliquées dans la vie sociale des deux républiques, et particulièrement des deux capitales, n'ont que faire de préoccupations politiciennes. Et j'ai entendu des déclarations regrettables dire qu'on a normalisé cela parce que ils considèrent les deux chefs d'État comme des dictateurs, et donc c'est un acte de solidarité, une sorte d'association des malfaiteurs. Je crois que nous devons un peu plus de considération envers les gens qui sont dans, qui ont le mandat du peuple et qui ne sont pas hors délai, faut-il le rappeler. Alors, les 15 kilomètres n'étaient pas en vigueur. Les 15 kilomètres étaient suspendus. Tout l'accord, le premier accord, était suspendu.
Les 15 kilomètres n'étaient pas appliqués à l'accord.
Non, c'est suspendu. Après ce charivari, l'accord était suspendu.
Voilà.
Et à l'époque, on se disait même pourquoi on n'a pas attendu d'impliquer l'Angola également, parce que c'était un accord tripartite. Donc, les 50 kilomètres, ce n'est qu'une normalisation, disons, en tenant compte des réalités des choses. 50 kilomètres, est-ce que Sassou a besoin de voix congolaises pour être élu, de Kinshasa? Est-ce que Kabila a besoin de voix des Brazzavillois pour être élu? Je crois que nous devons avoir un peu plus de retenue.
Monsieur l'ambassadeur, il y a des experts qui disent du fait qu'on est allé de 15 km à 50 km, c'est une avancée, mais pas assez pour permettre une certaine intégration, une véritable intégration.
Mais la diplomatie est une marche à petits pas. Nous venons de 15 km, maintenant c'est 50, peut-être demain ce sera une ouverture totale, comme nous avons connu avec les pays de Grand Lac. Et donc il faut y aller tout doucement. Parce que les intérêts majeurs et de l'État et des populations sont en jeu. Et donc il faut saluer chaque fois que la politique de nos États coïncide avec les intérêts structurels, au mieux les structurants de l'intérêt de nos populations.
Le vice-premier ministre, ministre de la Défense, plutôt de l'Intérieur, mais le professeur Bochab a déclaré à l'issue de ses assises que nous avons travaillé dans un climat de fraternité, dans un climat d'amitié, et nous sommes arrivés au résultat attendu par les peuples frères des deux rives. Monsieur l'ambassadeur, vous pensez que les mesures prises rencontrent effectivement les attentes des populations de ces deux pays?
Pointez-vous au but. Vous avez la réponse. Il y a moins de fraudes. On traverse moins la nuit. Maintenant, c'est plus clair. Les gens vont, ils viennent, ils reviennent. Les 3 jours, c'est parce que le plus gros de quinoa qui traversent, c'est pour une activité journalière, et puis reviennent de même à Brazzaville. Donc je pense qu'il ne faut pas tout politiser. Les politiciens sont aussi des êtres humains. Eh bien, il nous arrive, plus régulièrement qu'on ne le pense, de tenir compte des aspects humains de certaines décisions, quelquefois malheureuses, que nous avons prises.
Monsieur l'ambassadeur, comment vous expliquez l'attitude des gouvernements congolais face aux Congolais de la RDC qui ont été expulsés du Congo Brazzaville, qui sont ici, qui depuis qu'ils ont été expulsés, ils passent leur séjour devant les stades Aix le 24 novembre dans des conditions inhumaine, mais il n'y a pas de réaction de la part des gouvernements congolais. Il y a même le député Franck Diongo qui a dénoncé cela. Comment vous expliquez cette attitude?
Non. L'hôtel de ville a pris les dispositions pour que...
Qui ont produit quel effet parce que ces gens continuent à vivre dans des conditions déplorables.
Si ces gens-là estiment...
Et les pluies vont commencer d'ici là.
Non, attendez.
C'est des femmes et des enfants qui passent leur séjour dehors.
L'hôtel
à la
de ville a pris des dispositions pour... recaser ces citoyens. Mais beaucoup se disent, nous ne connaissons personne ici, nous ne savons où aller, eh bien nous voulons rentrer à Brazzaville. Ce sont des problèmes, des drames humains.
En attendant, on ne peut pas mettre des structures pour les loger, des maisons par exemple.
Mais je vous ai dit que...
Est-ce que la République manque le moyen pour les faire?
Non. Ne dramatisons pas ça comme ça. L'hôtel de ville a dit, vous faites ceci. Je prends un autre exemple pour que vous puissiez comprendre. Lorsque les pluies emportent certains quartiers, on accorde des lieux de résidence à ceux qui étaient des sinistrés. Eh bien, après un certain temps, ils sont toujours sinistrés parce qu'ils vont préférer vendre. Ici, les gens ne veulent pas s'intégrer pour ne pas perdre le bénéfice d'une certaine commisération nationale et rentrer chez eux.
Merci, Joseph Kongolo.
Je veux dire à Brazzaville.
Merci, Joseph Kongolo. Je rappelle que vous êtes analyste politique. Quelle analyse vous faites de cette mesure qui vient d'être prise à l'issue de cette cinquième commission défense et sécurité entre les deux pays?
Bien, merci beaucoup. Je salue M. Atundu, que j'ai vu il y a longtemps, et je salue aussi l'honorable Franck Diongo. Merci beaucoup pour la question, Monsieur Guy. Je voudrais, d'entrée des jeux ici, dire que nous avons peut-être une interprétation faussée de la diplomatie de signes que la République du Congo a manifesté, n'est-ce pas, en chassant d'une manière sauvage les Congolais, nos frères, n'est-ce pas, de la République démocratique du Congo. Je crois que c'est un langage politique très clair que nous n'avons pas su interpréter correctement. Et les feedbacks, les réponses que nous avons réservées à ce comportement d'un État souverain, frère, voisin, ami, nous n'avons pas interprété correctement. Et c'est à travers des mesures, le temps, le traitement que nous avons réservé, n'est-ce pas, à ce comportement qui montre aujourd'hui, n'est-ce pas, que nous n'avons pas interprété correctement cela.
Et comment peut-on cerner ces langages politiques?
Justement, j'en viens. Ça, c'est un. Deuxièmement, vous savez que les deux États souffrent de la cécité démocratique. C'est-à-dire que ce sont des États qui ont deux problèmes sérieux dans le respect du droit de l'homme.
Cécité démocratique alors que c'est des États qui ont des institutions issues des élections?
Oui, les élections ne suffisent pas pour animer une démocratie, voyez-vous? Donc c'est un noyau dur dans une démocratie, mais il y a une trame d'attitude, du comportement et d'autres choses, n'est-ce pas, qui accompagnent la démocratie, pour asseoir la démocratie. Les institutions ne sont qu'un noyau dur. Alors, nous sommes en train de nous poser des questions. Est-ce que nous sommes entrés dans une relation de partenariat réel? Est-ce qu'il y a entente et détente, n'est-ce pas, de ce qui est passé? Quelles sont les mesures d'encadrement de ce nouvel arrangement? Voyez-vous, tout ce silence qui entoure cette mesure montre clairement que ce n'est pas efficace et pas durable. Par contre, si on fait une lecture, du moins pour mon pays, la République démocratique du Congo, je suis en train de considérer que depuis l'expulsion des Congolais de Brazzaville, il y a une politisation à outrance. n'est-ce pas, de cette expulsion, ce qui a fait que le 19 janvier et toutes ces choses ont été interprétées par le régime au pouvoir comme étant la conséquence de toutes ces frustrations qui ont trouvé d'autres frustrations localement, et il faut trouver ce qu'on appelle une soupape de sécurité. Le président, vous avez vu l'attitude du gouvernement face à la frontière de l'Angola, Lufu. Il n'y a pas de mesure. On a laissé, parce que c'est une soupape de sécurité, c'est-à-dire qu'on doit laisser cette population, si elle ne fait pas ce qu'elle est en train de faire, elle risque d'être politisée à outrance et créer des instabilités. De la même manière que la situation du Congo-Brazzaville. Donc, ouvrir rapidement la frontière, négocier rapidement, même dans une position de faiblesse, n'est-ce pas ? C'est une soupape de sécurité pour le régime en place pour occuper encore une partie des jeunes qui errent dans la rue et qui sont très chauds et prêts, n'est-ce pas, à prendre le pas, voyez-vous. Donc, dans la gestion, dans la gouvernance globale de la République aujourd'hui, ce sont des soupapes de sécurité que le gouvernement en place est en train d'ouvrir pour essayer de déstresser un peu la population. Vous savez qu'il n'arrive pas.
Ça veut dire qu'il y a déficit d'une politique, n'est-ce pas, d'encadrement et d'orientation des énergies de ces jeunes-là qui ne coûtent rien.
Exactement. C'est le prolongement. En fait, on gère avec un œil de lynx. On voit à gauche, on voit à droite, au-dessus et en bas. On est en train de comprendre qu'on n'est pas en mesure d'assurer les besoins élémentaires de la population. Plus il y a des flux de population dans une même ville, plus il y a politisation, la tension est haute, il y a beaucoup de stress. Et pour dégager ce stress, il faut laisser Lufu dans ces conditions parce que ça occupe une bonne partie de la population. Et très vite, il faut ouvrir la frontière, n'est-ce pas, de Brazzaville pour occuper encore une autre partie de la jeunesse et au lieu de la laisser être à outrance politisée dans un moment, n'est-ce pas, très chaud, n'est-ce pas, de la politique, parce que nous sommes d'ailleurs dans la pré-campagne, une période pré-électorale.
Donc, Joseph Pongolo, le dégel auquel on assiste était réclamé par tout le monde. Hein?
Quand vous dites tout le monde, c'est-à-dire
ces populations d'abord qui étaient victimes de toutes ces expulsions par les ONG, et par les politiques, les dirigeants politiques qui ont estimé que.
Quand la population.
Prendre des mesures pour permettre à ces populations de circuler librement.
Vous avez raison. Mais quand la population réclame quelque chose, les structures, les institutions doivent organiser ces demandes politiques, n'est-ce pas ? Ils doivent les instituer, donc les insérer dans des circuits diplomatiques, les circuits politiques, les circuits institutionnels qu'il faut pour essayer de cerner les intérêts de cette population par rapport, n'est-ce pas, à notre partenaire. Voyez-vous, il n'est pas dit que quand la population réclame, ça veut dire faites comme la population l'a dit. D'ailleurs, je vous donne un exemple précis. Vous voyez ce qui s'est passé au Burkina Faso. Quand les demandes politiques de la population ne sont pas traitées avec responsabilité au niveau politique et qu'elles doivent passer d'une manière brute, elles produisent un choc. C'est ça le problème. C'est-à-dire que ici, c'est la même chose. Ces demandes doivent être traitées au niveau politique avec responsabilité pour cerner les intérêts et voir dans quelle mesure. Donc, nous constatons bien que ce sont des soupapes de sécurité. Le gouvernement doit les faire pour déstresser l'ensemble des masses, n'est-ce pas, qui sont désœuvrées et qui sont très hautement politisées par les enjeux politiques en cours.
Honorable France Diongo, nous allons prendre pour vous cette question qui vous est adressée. Elle vient de Bukavu au sud Kivu.
Robert Mohamed de Bukavu au sud Kivu. Je pense qu'en soi, cette mesure de suppression des visas entre la RDC et le Congo-Brazza est à saluer. Il y a cependant lieu de se demander sur son efficacité à long terme. En d'autres termes, quelle garantie le Congo-Brazza peut-il réellement offrir à la RDC pour que cette fois-ci, ses ressortissants ne soient plus jamais l'objet de mauvais traitements, des traitements dégradants et inhumains, comme par les passés de la part des services de sécurité du Congo-Brazza.
Honorable Franck Diongo,
ce qu'il faudra noter, c'est que c'est quelque chose d'insignifiant. La demande nationale aujourd'hui entre le Congo-Brazzaville et le Congo-Kinshasa, ça serait d'annuler totalement l'existence des visas. Comme j'ai donné l'exemple des CDAO, les états de CDAO, un ressortissant d'un pays de CDAO n'a besoin, pas même de laisser passer, d'une identité seulement, sa carte d'identité suffit. Le Congo-Brazzaville et le Congo-Kinshasa sont membres de CEMAC. Pourquoi ne pas aller dans ce sens-là, commencer par les deux états? C'est une mesure pour des intérêts politiques. En réalité, en fait, c'est quoi? Je salue l'expert qui a dit quelque chose, peut-être qui a arrêté mon attention. Dans mon introduction, j'avais dit, la diplomatie de la RDC est une diplomatie dictée par la peur. Vous comprenez? De deux, au niveau de Congo-Brazzaville, c'est une diplomatie de l'hypocrisie, entretenant le flou, en cachant les non-dits. C'est cela la lecture. Quelle garantie? Il n'y a aucune garantie. Parce qu'en fait, les deux présidents sont les deux dictateurs qui ont déclaré la guerre à leur peuple. Chacun d'entre eux veut rester au pouvoir. L'action politique, c'est pour le positionnement personnel de chaque dictateur. Donc les Congolais n'auront aucune garantie. Parce qu'en fait, les 15 kilomètres, au moment où le Congo-Brazzaville passe par l'opération Bakolo, bataille à Bakolo, ils violent, ils volent, il y a un traitement inhumain, mais à cette époque-là, les 15 kilomètres-là étaient en application, on a suspendu après. Pendant qu'ils ont expulsé sans respecter les règles de droit, les 15 kilomètres étaient en application. Donc, même les 50 kilomètres ici, comme l'État congolais ne protégera pas l'intérêt du Congolais de Kinshasa,
oui,
je ne vois pas de garantie.
On aura,
mais la volonté populaire, la volonté populaire, la liberté de commerce, je ne suis pas contre la liberté de commerce. Même les 3 jours-là, j'invite les Congolais à la prudence. Ils peuvent faire ce qu'ils peuvent faire, mais qu'ils soient prudents parce qu'ils ne seront pas protégés par l'État congolais. D'ailleurs, au-delà du Congo-Brazzaville, les Congolais ne sont protégés dans aucun pays. Chaque chose qui arrive aux Congolais de Kinshasa, dans n'importe quel État, ils ne sont pas protégés.
Oui, vous dites que les mesures qui venaient d'être prises ne sont pas suffisantes.
C'est quelque chose d'insignifiant.
Pour vous, il fallait supprimer totalement le système des visas. Vous savez qu'il y a une crise qui a atteint son paroxysme entre les deux pays et que là, les deux pays ont essayé, n'est-ce pas, de lâcher plutôt du lest pour essayer de trouver une solution à cette crise et que ces mesures constituent, n'est-ce pas, les premiers pas qui peuvent si les dirigeants politiques se comportent bien, ça peut permettre peut-être qu'on puisse atteindre, n'est-ce pas, ce niveau-là où les visas seront supprimés totalement.
Je ne suis pas partisan de cette approche globale, cette approche graduelle et graduée, donc un effet progressif. Non, monsieur. Notez que le grand Congo est le géant. J'ai l'ambition d'un leadership régional du grand Congo qui doit s'imposer sur les États minuscules comme le Congo-Brazzaville qui n'a que 85 millions d'habitants. Pas même la moitié de la population de la ville de Kinshasa. Donc, le Congo-Brazzaville dicte sa loi dans la diplomatie face au Congo. Non, monsieur, on ne peut pas nous manipuler comme ça. Il y a eu des commissions qui ont été créées, monsieur. Pendant qu'ils ont créé toutes ces commissions à Congo-Brazzaville, Congo-Kinshasa, commission d'enquête, il n'y a aucun résultat d'aucune commission. Et c'est à ce moment-là, après le résultat des va-et-vient des autorités de Brazzaville ici, qu'ils ont sorti qu'il faut des visas. C'est une humiliation du Grand Congo.
Oui, vous avez parlé de la
nous devons laver la CDAO de Brazzaville.
Vous avez parlé de la CDAO. Vous pensez que le niveau de confiance qui existe entre les pays de la CDAO, nous avons atteint ce niveau de confiance nous entre le Congo Brazza et la RDC?
Vous pensez aussi, monsieur, que les Congolais ne sont pas dignes d'obtenir la liberté des commerces d'affaires et que la solidarité entre les deux capitales, le plus proche du monde, le plus rapproché du monde, qu'on crée cette confiance-là? Quelle est l'histoire de Benelux? Non, monsieur. C'est l'État contre le peuple qui ignore les besoins des Congolais comme on ignore le besoin de la jeunesse. C'est un État qui prépare la jeunesse congolaise à devenir l'imbécile de demain. Je vous ai dit que j'ai une grande colère. Je n'accepte pas cette humiliation du grand Congo, des peuples congolais.
Vous avez évoqué le Benelux, c'était un processus qui avait commencé et qui a abouti aujourd'hui à l'Union européenne.
Alors, pourquoi les deux Congolais ne peuvent pas commencer des mesures pour essayer d'imposer à toute la CEMAC?
Merci, ambassadeur André Alea Tundu. Il y a une question qui vous est adressée. Elle vient une fois de plus de Bukavu au sud Kivu.
Isaac Bamporiki de Bukavu au sud Kivu. Cette mesure de suppression des visas est certes un début du rétablissement des relations entre les deux États voisins, mais elle a aussi l'allure d'une diversion tendant à détourner les regards des RD congolais sur les pires atrocités subies par les leurs de l'autre côté du fleuve. Il devrait se faire bien plus que cela. Depuis l'annonce de la commission d'enquête sur les expulsions jusqu'aujourd'hui, il est étonnant que les premiers résultats n'interviennent pas. Pourquoi la RDC a toujours été la plus faible et la plus perdante en coopération régionale?
Oui, monsieur l'ambassadeur André Antoudou.
Merci. La justice a son rythme. Et enquêter sur des atrocités de ce genre exige beaucoup de temps. Parce que autre chose est de porter une prétention devant une institution judiciaire, autre chose est de la prouver. Et donc, on ne va pas agir avec précipitation. La République n'a jamais ignoré les souffrances subies par nos populations qui étaient à Brazzaville. Elle n'a jamais renoncé à son droit de protection. Au contraire. Mais, ceci dit, entre-temps, la politique, la diplomatie doit être stratégique, c'est-à-dire voir l'avenir. Si d'aventure, je prends un exemple parce que j'ai comme l'impression que...
Voir l'avenir, c'est faire table rase sur les papiers.
Je vais vous donner un exemple. À l'époque où nous étions de deux bords différents, la République populaire du Congo et la République du Zaïre, eh bien, les chefs d'État des deux côtés ne pouvaient pas interrompre le trafic pendant plus d'une semaine parce que la pression populaire de deux côtés était grande. Et aujourd'hui, la pression est grande. Brazzaville a connu une montée, une hausse de son niveau de vie. Ceux qui sont venus ici, on réclame qu'on leur trouve, qu'on leur remette dans leur droit à Brazzaville qu'ils avaient laissé, et les autorités doivent tenir compte de tout cela, en dehors du sentiment. Sans renoncer aux droits, aux enquêtes en cours, au droit de porter plainte, il faut aménager l'avenir. Quelles sont les dispositions prises? Les dispositions prises peuvent être présumées à partir de la composition de la délégation. Cette délégation, c'est le ministère de l'Intérieur, c'est DGM, l'immigration, c'est l'ANER, c'est les affaires étrangères. Alors, quelle garantie voulez-vous encore? Seulement, nous disons, garantie, confiance, mais contrôle et vigilance. Parce que nous avons des antécédents. Ce n'est pas le premier incident du genre entre nos deux États. Et donc, nous devons être prudents. Nous devons d'abord éduquer nos citoyens, n'est-ce pas, à préférer rester chez eux plutôt qu'aller ailleurs. N'est-ce pas? Et nos ambassades, les autorités de la République, ne se privent pas de défendre leurs droits.
Vous dites que nous devons éduquer nos populations pour pouvoir, n'est-ce pas, rester chez eux. Là, vous rejoignez l'analyste Joseph Kongolo, qui a estimé qu'il y a absence d'une politique d'encadrement des jeunes.
Non. Quoi qu'on fasse, est-ce que vous connaissez la composition sociologique des populations de Brazzaville et de Kinshasa, par exemple? Est-ce que vous savez que le long du fleuve, il y a Bolobo, Congo français, Bolobo, Congo Kinshasa? Et ce sont des populations, les mêmes populations. Vous allez à Luozi, mais ce sont les mêmes qui sont à Brazzaville. Alors comment vous allez gérer un État de façon responsable sans tenir compte des liens ethnologiques de ce peuple?
Joseph Kongolo, il y a une question qui vous est adressée, elle vient de Tshikapa.
Alex Eko de Tshikapa, je pense que c'est une bonne chose de pouvoir renforcer les relations entre les deux pays, mais ce n'est pas en instaurant un laissez-passer d'une validité de 3 jours seulement qu'on va y arriver. Quand on sait que le développement de l'Afrique passera, selon les experts, par une intégration régionale entre les pays et qu'on peut doubler le taux de croissance du continent, en supprimant les frontières, donc je suis déçu, nos dirigeants ne sont pas assez ambitieux par rapport à ces sujets.
Oui, Joseph Kongolo.
Merci beaucoup, Monsieur Alex, pour la question. Je crois que Monsieur Alain Atondou a dit quelque chose de très important qui n'a pas d'écho dans les mesures d'encadrement qui ont été prises par les deux gouvernements. Il dit que ce sont les mêmes peuples. Nous partageons presque, les deux villes partagent la même culture, les mêmes valeurs, la même musique. Voyez-vous, ce sont des éléments que la diplomatie devait exploiter à fond, n'est-ce pas, pour négocier une fois pour toutes, n'est-ce pas, ces nouveaux arrangements. Est-ce que cela ressort? Est-ce que nous avons été instruits par le passé? Parce que M. Atondou vient de dire tout à l'heure, ce n'est pas le premier conflit entre les deux. Est-ce que nous avons tiré des leçons sur les anciens conflits? Est-ce que nous avons pisé... En fait, vous savez que la politique récupère, n'est-ce pas, la société. Parce que la société, la compénétration entre les deux peuples, entre les deux capitales, a commencé bien avant d'être structurée par la politique. Voyez-vous. Donc la diplomatie devait exploiter dans toutes ses valeurs pour pouvoir garantir, n'est-ce pas, cet échange entre les deux pays. Est-ce que dans les mesures d'encadrement, y a-t-il des éléments spécifiques qu'un chercheur peut lire et comprendre que ce sont les deux capitales, les deux villes les plus proches du monde, les deux capitales les plus proches du monde? Est-ce qu'on peut comprendre qu'à travers ces mesures d'encadrement, n'est-ce pas, que ce sont des gens qui partagent une même culture? Est-ce que ce sont les gens qui habitent des parts et d'autres d'un fleuve? Est-ce qu'ils ont la même langue? Voyez-vous, est-ce qu'on peut lire ça 10 ans plus tard à travers les mesures d'encadrement d'aujourd'hui? C'est ce que nous disons qu'on n'a pas exploité à suffisance, et je crois que la précarité dans ce genre de mesures, et surtout une diplomatie précaire qui n'a pas de durabilité dans le temps, je crois que c'est aussi un piège pour les populations demain.
Joseph Kongolo, et que faut-il pour consolider les relations entre les deux pays?
Je crois que, je viens de le dire tout à l'heure, entre les deux, nous avons des valeurs que nous partageons. Nous avons des langues, voyez-vous. Nous avons des comportements, des multiples, une culture, toute une culture que nous partageons ensemble. Ce sont des éléments positifs que nous pouvons positiver et fonder sur ces éléments, n'est-ce pas, une relation d'entente et de détente durable, voyez-vous. Or, c'est ça. Donc, si nous ne savons pas exploiter ce qui est déjà là, et les consolider, n'est-ce pas, notre relation avec le Congo-Brazzaville, ça veut dire que nous sommes dans le superficiel. Et en ce moment-là, nous n'avons pas investi pour l'avenir. Et ça, c'est déplorable.
Honorable Franck Diongo, que faut-il pour consolider les relations entre la RDC et la République du Congo? Vous venez de suivre l'analyste Joseph Kongolo, qui estime qu'il y a des valeurs communes entre les deux peuples et qui peuvent être exploitées à bon escient.
Le problème est au niveau politique, parce que les deux chefs d'État ont déclaré des guerres à leur peuple. Il n'y a qu'un État de droit qui peut garantir la réconciliation durable entre les deux peuples. Toutes les mesures précaires sur le positionnement des deux chefs d'État, la population n'aura pas une solution durable. À mon humble avis, au stade où nous sommes arrivés, que les deux dictateurs ainsi
le deux présidents.
Les deux présidents dictateurs.
S'il vous plaît, il ne faut pas les qualifier de dictateurs. Hein. Un peu de considération, comme l'a dit l'ambassadeur Atondou.
Est-ce que quand on dit qu'un président est dictateur, c'est manquer du respect?
C'est le président de la République quand même. Hein.
Quand on appelle Obama, Obama, ce n'est pas manquer du respect à Obama. Je m'excuse beaucoup. Je m'excuse beaucoup.
Parler en termes de président.
Je ne mets pas pour la démocratie.
Oui, on aura parlé en termes de président. C'est mieux.
Donc, les deux peuples des deux pays différents doivent se battre pour instaurer l'état de droit. Dans un pays qui respecte l'état de droit et la démocratie, il y aura une nouvelle politique de relations extérieures, une nouvelle politique de bon voisinage, et les deux Congos vont se réconcilier. Parce que nous sommes les mêmes peuples. C'est quand même choquant de voir que les peuples du Bas-Congo, où vous trouvez les mêmes peuples au Congo-Brazzaville, et qu'il y ait de telles atrocités. Nous sommes des frères, mais les dictatures nous départagent et nous séparent.
Monsieur l'ambassadeur André Alain Atundu, que faut-il pour consolider les relations entre les deux pays? L'analyste Joseph Kongolo, lui, a parlé des valeurs communes qui existent entre les deux peuples et qui peuvent être exploitées. Et l'honorable Fang Diongo lui parle d'un état des droits qui doit être effectif dans les deux pays.
Je pense qu'il faut d'abord que nos populations aient des dispositions psychologiques de confiance vis-à-vis des institutions qui nous dirigent. Que les autorités, que les Congolais sachent...
Vous pensez que la confiance n'existait pas ?
Non, il y a trop de rumeurs, il y a trop de manipulations. On a comme l'impression que les autorités compétentes sont là pour rechercher la souffrance du peuple congolais et qu'ils n'assistent jamais nos peuples en difficulté. Or, en commençant par le chef de l'État, souvenez-vous, quelle marée humaine de délégations a déferlé sur Brazzaville. Ça, c'est un. Deuxièmement, il faut suivre la filière formelle. Non citoyens, de part et d'autre, doivent suivre la filière formelle pour faciliter leur protection. Lorsque on ne se fait pas enregistrer dans les ambassades, lorsque on fait de l'immigration clandestine, évidemment, l'État a difficile même à évaluer le nombre des gens.
N'est-ce pas que tout cela est lié au fait qu'en amont, le travail qui devait être fait n'a pas été fait par l'État d'origine ?
Mais par les États, par les hommes politiques. Par les hommes politiques, nous devons éduquer nos populations. Il ne s'agit pas de venir vociférer devant la télévision ou la radio. Nous avons une responsabilité d'éduquer nos concitoyens par rapport à nous-mêmes, notre dignité, et par rapport à la solidarité africaine, tant chantée par nos artistes et musiciens, léguée par les Lumumba, les Kassavubu, les Mobutu, les Mzé, poursuivis par Kabila. Nous avons une responsabilité historique.
Hein? Oui, Monsieur l'ambassadeur, vous allez aussi conclure parce que nous sommes presque à la fin de l'émission. Est-ce que l'amélioration des conditions de vie des populations ne peut pas être, n'est-ce pas, un facteur qui peut permettre aux populations de rester chez eux au lieu d'avoir tendance à aller chercher la vie ailleurs?
Mais c'est une belle déclaration. Mais je vous rappelle qu'un homme, est une tendance au dépassement. Je ne connais pas un pays où la population est satisfaite de son niveau de vie. Donc, nous devons plutôt assumer ce mouvement d'immigration, ce mouvement de transfert de population. Nous devons tenir compte de nos liens ethnologiques et culturels. Voilà pourquoi je préconise qu'on devrait impliquer les chefs coutumiers qui ont une gestion transfrontalière. N'est-ce pas ? Et il faut éviter d'enflammer inutilement les esprits des deux côtés, tout simplement pour des raisons propagandistes, polémistes. En tout cas, on n'aide pas nos populations lorsqu'on leur inculque l'idée Merci. Que leur chef d'État travaille contre eux.
Merci Joseph Kongolo. Il y a des experts qui pensent que la commission qui sera mise sur pied pour enquêter sur les allégations des violations des droits humains ne pourra pas travailler avec objectivité compte tenu des impératifs politiques.
Évidemment,
ça sera votre conclusion.
Je l'ai dit, que la cécité démocratique ne nous oblige pas d'avoir des commissions qui travaillent dans toute la liberté. Il serait d'ailleurs mieux de mettre une commission internationale là-dessus. Je crois que ça va nous épargner de beaucoup de choses. S'il n'y a rien à craindre, s'il n'y a rien à cacher, je crois que ça peut passer. Donc ce qui est vrai, c'est qu'il ne faut pas attendre quelque chose de toutes ces commissions, et surtout que la période pendant laquelle, n'est-ce pas, nous sommes aujourd'hui n'est pas... va pas s'y prêter pour pouvoir avoir une commission qui travaille correctement.
Merci.
Mais je voudrais dire ceci pour terminer. Je confirme que l'état de droit, c'est une avancée pour stabiliser les populations. En deuxième temps, il faut améliorer les conditions de vie de la population, en général, pour que stabiliser, n'est-ce pas, la population.
Franck Diongo, votre conclusion.
Ma conclusion, c'est que cette mesure est quelque chose, mais ce n'est pas signifiant. C'est vraiment insuffisant. Il faudra obtenir l'annulation pure et simple des visas. 3 jours, c'est quelque chose d'insuffisant. Les 2 chefs d'État ont déclaré la guerre à leur peuple. Il faut qu'ils s'amendent, qu'ils quittent la voie de vous.
Merci, c'est la fin de cette émission. Merci à Hippolyte Kapanga qui était à la technique, Alain Irung, Béry Franklin Loutiaka à la réalisation sous la supervision d'Epele Kipela Mondo, à la présentation Guy Maté. Merci et bon suivi de programme sur Radio Okapi.